Le dialogue, si jamais il s'arrêtait quelque part, les conséquences seraient désastreuses. Mais il est vrai d'autre part que malgré l'augmentation du nombre des colloques, des réunions, des conférences sur le dialogue, les résultats sont vraiment très modestes jusqu'à présent. Je pourrais même dire que dans certains endroits, les résultats sont plutôt négatifs. Il y a une marche régressive. C'est comme si on voulait dire que ce dialogue ne rime à rien et de toute façon, on se dirige donc inexorablement vers le conflit entre les cultures, les religions, les civilisations dont M. Huntington a été le prophète. Hein.
Mais quels sont ces pas en arrière dont vous parlez?
Vous savez, il y a, après les révolutions arabes, par exemple, je vous donnerai l'exemple d'un pays qui a été longtemps l'un des pionniers d'une certaine modernité dans l'islam, d'une certaine ouverture, la Tunisie. On entend maintenant en Tunisie, comme ailleurs aussi dans certains autres pays, un genre de discours qu'on n'avait pas l'occasion d'écouter souvent dans le passé. Il est vrai que pendant ces révolutions, dans les grandes places où les manifestations se tenaient, on n'a pas beaucoup entendu un langage islamiste. On a surtout entendu parler de démocratie, parler des droits de l'homme, parler d'une lutte contre la corruption, cette corruption qui était devenue une institution même dans certains régimes. Mais après, vraiment, il y a une déception maintenant. Vous savez, les fleurs du printemps étaient très belles, mais les fruits de l'été n'ont pas été à la mesure de ce qu'on s'attendait de ces fleurs-là. C'est pour ça qu'on passe maintenant par une anxiété de plus en plus grandissante, mais tout en nous disant que bon, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. Les enjeux sont d'une importance capitale. On parle de liberté de religion, qui n'est pas seulement la liberté de culte, mais la liberté de conscience. Il y a certains indices qui sont encourageants. La voix du Azhar en Égypte. Il y a même la voix maintenant du président égyptien, malgré son appartenance à l'organisation des frères musulmans. Nous sommes en train d'entendre maintenant un nouveau discours. On est en gestation actuellement. Et ce serait vraiment hasardeux de dire de quoi le lendemain sera fait.
Alors sur quelle base faut-il dialoguer selon vous?
Avant d'entamer ce grand chapitre, il faut créer un climat de sérénité, de calme, où on pourrait discuter de ces problèmes tranquillement, sans qu'on soit acculé par des développements le plus souvent dramatiques sur le terrain. En schématisant un petit peu, je pourrais dire que la condition chrétienne, au début de l'islam, la condition de chrétien plutôt, au début de l'islam, était de loin meilleure que ce qu'elle est actuellement. Je crois que le temps est venu. Au lieu, pendant longtemps maintenant, ces derniers temps, on a donné la préférence aux relations entre les musulmans et les chrétiens. Je pense qu'il est grand temps d'aborder les relations entre le christianisme et l'islam. Nous, on voudrait savoir vraiment avec quel regard, avec quelle vision surtout d'avenir les musulmans regardent les chrétiens. Est-ce qu'il y a vraiment un empêchement à ce que les musulmans puissent considérer une égalité dans la citoyenneté entre les chrétiens et les musulmans en partant des principes même de l'islam? Il y a trop de questions auxquelles on s'attend à des réponses. Vous savez, le Saint-Père a mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue sérieux entre les chrétiens et les musulmans, sur la nécessité de mettre ensemble à point, disons, une charte définissant nos relations bilatérales. Nous sommes tous les deux conscients de l'importance de ces relations dans un monde où la moitié de la population maintenant, elle est soit chrétien, soit musulman.
Est-ce que l'on ne dialogue pas parfois pour se donner un peu bonne conscience?
Oui, mais je dirais un peu qu'il est nécessaire. Un peu de modération n'a jamais fait du tort à personne. Mais de là à dire que la modération va dire que en arrondissant les angles, on plonge dans un dialogue de complaisance, non, personne ne le veut. Nous sommes tous conscients de l'importance de ce dialogue duquel dépend en grande partie la paix du monde. Mais c'est vrai, pendant assez longtemps, on ne voulait pas heurter le partenaire. Vous savez, il y a trop de choses qui séparent, mais il y a un tronc commun qui unit, qui, si on pouvait le développer, on est en train de le développer. Moi, je vous donne Un exemple concret, il y a 3 ans au Liban, nous avons réussi, chrétiens et musulmans, à faire de la fête de l'Annonciation une fête nationale célébrée par les musulmans et les chrétiens. Bon, je ne vais pas dire que la Vierge est perçue au christianisme de la même façon qu'elle est perçue en islam, mais quand même, il y a un tronc commun. Pour nous, elle est avant tout la mère de Dieu, elle est une partenaire dans l'opération du salut. Il n'en est pas question chez les musulmans, mais quand même, pour eux, elle reste la femme, selon le Coran, la femme la plus vénérée qui ait existé et ou qui existera jamais dans l'histoire de l'humanité, que Dieu a choisi parmi toutes les autres. Bon, si on développait un petit peu le tronc commun, l'approche des problèmes de divergence serait plus facile. On va défricher un petit peu la broussaille pour faciliter l'accès, mais il faut éviter vraiment le langage de complaisance, et le Saint-Père l'a toujours souligné. Ce qui ne facilite pas seulement les choses, c'est que le fossé était devenu assez grand quand même entre l'islam et la chrétienté récemment, et l'image de l'islam en Occident, elle est complètement défigurée, et bien souvent on est en train de confondre l'islam et le terrorisme, l'islam et le fondamentalisme, la violence, etc. On a de plus grandes chances d'arriver, surtout si l'amour de Dieu et du prochain préside à cette action. Vous savez, on peut tout se permettre, on peut tout se dire, si ce qu'on dit, si ce qu'on fait est fait avec amour pour arriver au bien commun.